Manuel Rochman Trio.
Rendez-vous pour l'enregistrement de l'émission demain à partir de 18h dans le grand hall de la maison de Radio France.
Entrée libre et gratuite dans la limite des places disponibles.
Le Crédit Mutuel donne le la à la musique sur France Inter.
France Inter, partenaire de la réouverture des grandes serres du Jardin des Plantes à Paris. Un patrimoine historique, une nouvelle muséographie, une immersion dans la nature. À retrouver dans les émissions de France Inter et sur franceinter.com.
France Inter.
La différence.
15h04 sur France Inter, on retrouve Daniel Mermet là-bas, si j'y suis.
Notre président Nicolas Sarkozy, concernant le passage du train de déchets nucléaires, a parlé de la plus grande fermeté qui sera déployée envers les bloqueurs du train de déchets nucléaires. Il faut savoir que les militants du Ganva qui ont bloqué le train à Caen ont subi quelques brûlures et un notamment a eu les deux tendons d'une main sectionnés. Donc si on applique à la lettre le souhait de Nicolas Sarkozy, c'est la prochaine fois que le train sera bloqué, ce sera l'amputation pure et simple. Qu'on se le dise.
C'est une piqûre de rappel. Le repère de Montauban aura sa première séance le mardi 16 novembre à 20h30, bar Le Diablotin. Qu'on se le dise et répète.
Bonjour Daniel, Claude Nancy, 20 ans de travail social, sans compter ses heures. Qu'un cas aujourd'hui, un peu cher donc, licencié parce que trop proche des collaborateurs et donc un management, comme ils disent, un peu trop éloigné de ce qu'on attend aujourd'hui d'un chef. Licencié sans doute abusivement, mais heureux d'avoir transmis à des collaborateurs une autre image de la hiérarchie. C'était risqué, j'ai payé.
Les économistes ne cessent de louanger l'ouverture des marchés et la mondialisation. Un pays comme la Chine peut écouler ses produits bon marché sur le territoire français comme bon lui semble, sacrifiant au passage plusieurs milliers d'emplois. Dimanche, sur une station concurrente, on parlait de General Motors qui allait pénétrer le marché chinois, mais à condition de s'associer avec un constructeur chinois. Ceci, on s'en doute, afin de préserver capitaux, bénéfices et emplois au pays du dragon. Et si c'était les Chinois qui avaient tout compris? À quand le retour à un protectionnisme modéré? À quand l'abolition de l'Europe qui contraint les entreprises françaises à s'inscrire dans une logique qui est toujours plus productive, et ce, au détriment des salariés? Cette Europe, dessinée selon le modèle libre-échangiste, elle punit même les États qui tentent de prêter main-forte à leur propre industrie. Si c'est pas plus fort que le Roquefort, ça...
Salut les AMG, le repère de Briouze dans l'Orne du milieu du mois se tiendra ce vendredi 12 novembre à 17h30 au bar tabac Le Brazza, 22 rue du Docteur Petit. Vendredi 12, 17h30 à Briouze, salut.
Bonjour Daniel, Martine de Pont-l'Abbé. Alors j'ai écouté ton émission cet après-midi et je voulais réagir justement sur le fait que c'est l'hôpital public qu'on assassine, ce qu'a écrit le professeur Bernard Debré. En fait, moi, c'est mon petit-fils qu'on a assassiné. Il avait 6 ans. Il a eu un infarctus en sport à l'école, à 2h moins le quart. Ça se passait à Villejuif, le 1er avril, il y a 2 ans. Et il est arrivé au Kremlin-Bicêtre à 5h30. Pas de place dans les hôpitaux, nulle part. Ni Necker, ni enfant malade, ni cardiologie infantile, ni urgence pédiatrique. Personne n'a voulu de lui. Il est resté 1h30 sur le trottoir avec les motards. Personne n'a voulu de cet enfant alors qu'on l'aurait sauvé s'il était arrivé à temps. Donc il ne faut pas que ça arrive de nouveau. Il faut arrêter de massacrer l'école, de massacrer les hôpitaux, de massacrer la santé. C'est révoltant. Ben, il y a un site, pourtoimoncoeur.fr, en un seul mot. C'est passé sur la 5, il y a eu un article dans l'IB. Il y a tout dessus, tout ce qui est arrivé. Et voilà, donc je ne sais pas quoi ajouter. Merci.
Je voulais simplement signaler que pour les problèmes du Kivu et de ses minerais, la lecture du Chant de la Mission de John le Carré est un livre extrêmement éclairant, comme souvent les romans le sont plus que les ouvrages théoriques. À bientôt.
Merci pour tous ces messages, chers AMG. Messages que j'écoute ici à Goma. Nous venons de traverser tout le Congo, toute la République démocratique du Congo, d'ouest en est. Et nous voilà à Goma, je suis au bord du lac Kivu. Et nous allons, à partir d'ici, comprendre qu'est-ce que c'est que ce grain de poussière, ce grain de sable qui est à l'intérieur du portable dans lequel je vous parle, qui vient d'ici, de cette région, et qui vient d'ici avec du sang dessus. Oui, il y a du sang dans ce portable. Il y a toujours du sang de pauvres dans l'argent des riches. C'est ce que nous allons essayer d'illustrer, et c'est ce que cette histoire terrible du coltan illustre. Comment vous faire comprendre ça à notre retour? C'est la question qu'on se pose. Mais en tout cas, ce serait bien difficile de faire comprendre aux gens que nous croisons ici, à Goma, où nous venons d'arriver, la grève du Pôle emploi à Paris, en France. Comment leur faire comprendre ce que c'est qu'une grève du Pôle emploi? Difficile aussi ça, hein, de se faire comprendre d'un bout à l'autre de cette planète. Et pourtant, nous nous y employons désespérément. Aujourd'hui, retour sur le Pôle emploi. C'était un reportage de Pascal Pascariello. Auparavant, encore quelques messages parmi ceux que vous avez laissés dans la boîte vocale de la basse judiciaire, 01 56 40 37 37.
En ce 9 novembre 2010, l'occasion est trop belle de rappeler dans la plupart des médias l'appel du 18 juin 1940. Quand est-ce que sera enseigné l'appel du 17 juin 1940 de Charles Tillon, fondateur des FTP? Régis de Nîmes.
Ce matin, sur France Inter, j'ai entendu des jeunes qui ne connaissaient même pas le général de Gaulle. En plus, ces jeunes faisaient partie d'un lycée professionnel, le lycée Charles de Gaulle. Alors le journaliste de France Inter semblait affligé de cette chose-là, mais par contre, ça ne l'étonnait pas du tout que ces jeunes n'aient pas de livres. En tout cas, ils n'en semblaient pas affligés. Voilà, bah oui, les jeunes de lycée professionnel n'ont pas de livres d'histoire, pas de livres de français, pas de livres de maths, pas de livres d'économie. Alors comment voulez-vous qu'ils s'inscrivent eux-mêmes dans l'histoire? On se moque des jeunes. Alors pourquoi les jeunes ne se moqueraient pas du général de Gaulle et même de l'histoire de leur pays? Salut.
Bonjour, une information qui devrait intéresser vos auditeurs à propos de l'émission sur Ryanair. Le directeur des relations stratégiques d'Air France que vous avez interviewé, M. Bande-Pagès, peut se draper dans sa dignité et pousser des cris d'horreur à propos de la directive Bolkenstein. Il oublie simplement de dire que M. Bolkenstein siège au conseil d'administration d'Air France depuis 2005. Au revoir et merci pour votre émission.
Salut Daniel et salut à toute l'équipe. Eh bien à Dijon, on ne lâche rien non plus. Le prochain repère se tiendra au Vieux-Léon, rue Janin, ce mardi 9 novembre. À partir de 20h, nous y débattrons toujours avec Daniel de l'économie internationale, c'est elle qui nous prépare quelque chose qu'il ne faut pas louper là, et puis nous reviendrons sur les émissions donc de Là-bas si j'y suis, depuis cette rentrée de septembre. À très bientôt donc au repère du 9 novembre.
Daniel, j'appelle pour dénoncer une situation injuste et arbitraire, surtout au moment où Chérec va ouvrir des négociations avec le MEDEF sur l'emploi des jeunes, qui lui disent bien, Laurence, que les jeunes ne sont pas des chiens, mais des êtres humains. Mon fils, 23 ans, va de petit boulot en petit boulot. Il y a 2 mois, il avait le choix entre 2 emplois, un CDD en téléphonie, et rentrer comme serveur chez Courtepaille pour un CDI. C'est un restaurant qui se trouve à côté du Zénith de Rouen. Il a bien sûr choisi la promesse de CDI. Il a été embauché pour 25 heures par semaine, des horaires discontinus, bien sûr. Par manque de personnel et bien souvent pour aider ses collègues, il faisait environ 35 heures par semaine. Sa période d'essai se finissant, il a été convoqué la semaine dernière pour une visite médicale d'embauche. Et ce vendredi, alors qu'il se rendait à son travail en scooter, qu'il vient d'acheter en s'endettant pour pouvoir aller à son boulot, le patron l'a appelé sur son portable pour lui dire de ne pas venir ce jour et qu'il ne renouvelait pas sa période d'essai, sans aucun motif particulier. Cet état de fait n'est pas étonnant, car quelques jours auparavant, mon fils avait demandé comment les heures supplémentaires seraient payées. Le patron lui avait bien sûr répondu qu'elles ne le seraient pas. Chapeau bas, monsieur le patron du restaurant Courtepaille, du Zénith de Rouen. Quelle honte à ce patron d'un vulgaire restaurant où l'on mange de la viande et des frites, où les conditions de travail sont déplorables car les jeunes sont souvent obligés de préparer la cuisine et de servir en salle. Si les clients voyaient ce qui se passe en cuisine, ils seraient moins nombreux. Quelle belle image des adultes et du monde du travail. Les jeunes sont quand même bien gentils. À quand la révolte générale? Sylvie, à côté d'Albi.
Je je suis à Pôle emploi, je fais l'accueil le matin et vraiment je vois vraiment la misère quoi. Je vois vraiment la misère tous les matins quoi.
On a peur toujours de la boîte à lettres. On a peur, c'est un recommandé qui arrive à payer quelque chose qu'on a oublié, un PV de la RATIP, hein. je sais pas, on est flashé. Vous savez, là, maintenant, on fait attention à tout. Hein.
J'ai vraiment le sentiment que les agents de Pôle emploi en arrivent à stigmatiser le demandeur d'emploi parce qu'on a un certain nombre d'objectifs à tenir et les radiations en font partie. Ben, le taux annoncé, c'était 500 000 radiations à l'année.
On va remettre les choses dans ce contexte. Nous, on a besoin de ce papier-là. Maintenant, pourquoi vous n'avez pas ce papier-là?
Ils m'ont donné déjà...
Non. Mais pourquoi vous n'avez pas votre déclaration d'impôt? Moi, je fais mon travail et je vous dis que ça, c'est pas bon.
Après, c'est soit on respecte le code du Pôle emploi, ou soit on respecte le demandeur d'emploi. C'est un peu ça, en fait.
Moi, je suis conseiller, je vous explique pourquoi vous n'avez pas ce papier-là. Moi, je fais mon travail et je vous dis que ça, c'est pas bon.
Salut, c'est Daniel Mermet, c'est là-bas si j'y suis avec Pascal Yello. L'avenir radié.
Flight number 2, arriving from...
Combien de fois j'étais dans mon bureau avec mon casque téléphonique à recevoir des appels et je recevais des appels d'allocataires qui étaient dans la même salle d'accueil. Où j'entendais très bien et j'étais même, mon bureau donné dans la salle, je les entendais me poser la question et ils étaient juste à côté de moi. Et moi j'étais derrière mon téléphone en train de répondre à la question. Ils déshumanisent totalement, c'est maintenant, on ne veut plus que les gens se déplacent. Les gens n'ont pas à se déplacer puisqu'ils veulent tout par téléphone, internet, par courrier. Tout le côté humain, c'est de la perte de temps, de toute façon, pour eux. Parce que nous, on voit bien que le truc de retour, renvoyé vers le 3949 ou internet, ça pose de gros problèmes en parallèle sur les dossiers, sur les demandes d'allocation, sur les actualisations, sur les paiements. Les anomalies, ça crée des anomalies, que si on les recevait automatiquement, il y aurait moins de problèmes. Moi, ça fait 6 ans
que vous travaillez pour.
Je travaille pour ex-ACEDIC de Paris à l'époque, maintenant Pôle emploi. Avant, un demandeur d'emploi, c'était une personne réelle dans le sens où on l'écoutait, on essayait de voir le plus rapidement pour débloquer sa situation et on comprenait sa situation. Maintenant, le problème, c'est qu'on n'a plus le temps. C'est limite pour nous des numéros. Moi, j'ai des collègues plusieurs fois qui m'ont dit, quand je reçois les gens pour les inscrire, si je les revoyais dans l'après-midi, je ne saurais même pas dire si je les ai eus le matin dans mon bureau ou pas. Et pourtant, on les a normalement une demi-heure dans le bureau. Un quart d'heure, une demi-heure. Et là, maintenant, on n'est même plus capable. On se souvient plus des noms des gens et on ne les écoute plus, on ne les regarde plus.
Bonjour, Pôle emploi à votre service. Le 3949 est le numéro unique des demandeurs d'emploi et des actifs. Pour accéder directement à nos services, tapez étoile. Cet appel passé d'une ligne fixe ou d'une box vous sera facturé 11 centimes d'euros maximum. Si vous appelez depuis un mobile, cet appel sera décompté de votre forfait ou facturé au prix d'une communication normale. Connaissez déjà le mot-clé du service souhaité, vous pouvez le prononcer dès maintenant. Pour actualiser votre situation mensuelle, dites « Actualiser ».
N'entrez pas, prévenez la police. N'entrez pas, prévenez la police. C'était un mot écrit sur un morceau de papier collé sur la porte d'un bureau de Pôle emploi à Saint-Quentin. Et un matin de mars 2009, le premier agent qui est arrivé au boulot a trouvé ce mot sur la porte du bureau voisin du sien. N'entrez pas, prévenez la police. Il a quand même ouvert la porte et il a vu son collègue pendu. C'est une histoire parmi d'autres, d'autres histoires analogues qui racontent assez ce qu'est le boulot à Pôle emploi. Pourtant, il y aurait de quoi se réjouir. 1 million de chômeurs en moins prévus pour cette année 2010. 1 million de chômeurs en moins. Oui, c'est une bonne nouvelle. Et curieusement, notre modeste gouvernement ne s'en vante pas plus que ça. 1 million qui vont cesser cette année de percevoir une assurance chômage. Pourquoi ? Parce qu'ils arrivent en fin de droit. 1 million dont, on ne sait pas très bien, 400 000, 500 000, 600 000 ne recevront plus rien du tout. Ni l'ASS, allocation de solidarité spécifique. Au passage, on se demande si celui qui a choisi ce sigle a fait un minimum d'anglais dans sa vie. AS, ça fait. Allocation de solidarité spécifique, 15,94 € par jour. Ou RSA, c'est-à-dire 456,63 € par mois, c'est l'ancien RMI. Eh bien, entre 400 et 600 000 n'auront plus aucun de ces droits. Depuis des années, depuis 96 exactement, la France consacre 4% de son PIB au chômage, à indemniser le chômage, 4% du PIB, soit environ 60 milliards par an, environ 60 milliards par an dans la lutte contre le chômage. La moitié en dépenses dites passives, des allocations de toutes sortes, et l'autre moitié en dépenses actives, en formation, en réinsertion, etc. Mais quand on sait en quoi consistent ces formations et ces réinsertions, on peut considérer qu'il s'agit aussi de dépenses tout aussi passives. Alors, est-ce qu'un jour on va changer de politique, réfléchir sur d'autres possibilités, au moins gérer ce drame, au moins imposer des mesures ou des politiques palliatives? On n'a pas l'air d'en prendre le chemin. Ce qu'on a voulu faire avec Pascal Pascariello, c'est voir de l'intérieur, quelques heures, dans un de ces bureaux de Pôle emploi à Paris. C'est notre sujet du jour, jusqu'à 16h là-bas, si j'y suis, l'avenir radié.
Caviar en l'honneur des nouveaux radiers. Les heures supplémentaires resteront optionnelles, seulement faudra les faire. La voilà la bonne nouvelle. Quel heureux hasard, chômage a baissé, nous fêtons ce soir les nouveaux radiers. Quel heureux hasard qui veut négocier, quand sur le trottoir la main d'œuvre est si bon marché. Dans les nouveaux contrats, le patron ne signe pas. Y a plus de licenciement puisqu'il n'y a pas eu d'embauche avant. Quel heureux hasard, le chômage a baissé. Nous fêtons ce soir les nouveaux radiers. Quel heureux hasard qui va négocier, quand sur le trottoir la main d'œuvre est si bon marché.
Canal Plus.
Visite guidée donc.
3 mai 2009.
Là, on va dans le cœur du réacteur.
Les chômeurs se plaignent d'être systématiquement renvoyés vers une plateforme téléphonique encombrée. Voici l'autre côté de la ligne.
Ça va assez vite, hein. On est quand même plusieurs à être en position, donc le flux de traitement est régulier.
Même chose pour obtenir un rendez-vous. Les délais habituels sont d'une quinzaine de jours. pas ici.
Vous vous êtes inscrite il y a combien de temps?
Le 17 avril sur Internet. Et on m'a convoquée pour aujourd'hui le 28.
Ça fait moins de 8 jours ouvrés.
Un premier agent lui ouvre ses droits. Un deuxième la reçoit pour faire le point sur son avenir. Le tout en une heure et sans changer d'agence. C'était une présentation idyllique. La réalité serait bien différente.
Excusez-moi.
Oui.
Vous connaissez bien Pôle emploi ?
Oui, un petit peu.
Il y a pas mal d'offres ou pas ?
Mauvaise période.
Vous, ça fait combien de temps ?
Moi, je suis en chômage, ça fait depuis le mois de mars dernier.
Depuis le mois de mars de l'année dernière ?
J'ai quitté de l'intérim, je fais de l'intérim. Hein. J'ai bossé au bout d'un an en intérim, en tout, c'est 2 mois et demi.
Il n'y a que de l'intérim.
Sinon, genre, si vous trouvez pour les mi-temps, vendeuses, tout ça, c'est ça. Hein, mais sinon, il n'y a rien. Il n'y a rien du tout. J'en ai marre. Hein. Heureusement, j'avais mon chômage. J'étais bien payé, j'étais à 1000 et quelques. Comme j'ai bossé, j'étais à 41 euros la journée. Et je me suis inscrit à l'IMPE. Vous savez, Pôle emploi, c'est du pipo, quoi. Ils m'ont même pas appelé. Il y avait des travaux dans l'agence, j'ai rien compris.
Et là, comment ça se passe? Il y a un vigile dans l'agence?
Il y a des gens qui sont en haute tension et tout ça. Ils sont énervés, qu'ils n'arrivent pas à gérer. Donc, je vais les calmer. Mais bon, il n'y a rien qui les calme. Moi, je ne demande même pas à eux. Hein,
parce il n'y a qu'une personne?
Non, ça ne sert à rien de demander à ces gens de l'accueil. De toute façon, c'est une balle... ping-pong. J'ai le droit d'une une prime de retour. C'est pas de retour à l'emploi. Fin de.
Vous êtes en fin de droit là.
Fin de droit, mais ils m'ont rien donné. Hein. Ils m'ont rien donné. Hein. Je suis en RSA là.
Vous êtes en RSA?
Ouais, je suis en RSA, ça fait 2 mois. Hein. J'étais à presque 1300 euros.
Et vous êtes passé à combien?
Là, je suis à. Comment ça s'appelle ça? Là, je suis à 402 euros. Et en plus, j'ai un loyer qui tombe. Mon loyer, il est à 436 euros, donc j'ai la PL, donc 294 euros, ils ont rajouté 1 euro. Hein. Bon, merci quand même. Que fait, je peux même pas chercher à aller de travail, j'ai pas de voiture à aller en panne, je suis dans une galère, voilà. Faut qu'on accepte tout maintenant. Donc là, je vais avec 150 euros. Pour moi, par rapport à mon âge, je veux dire...
Vous avez quel âge?
Moi, j'ai 40 ans. La première des choses, je mets des pâtes. Je mange que des pâtes. Hein.
Vous n'avez pas d'enfants?
Si, j'ai des enfants, mais je suis séparé, moi.
Et vous, ça, vous aviez bossé combien de temps?
Moi, je travaille, ça fait longtemps que je travaille. Moi, j'ai fait au moins 7 ans dans le bâtiment. Je travaille dans la restauration pendant 2 ans. Je travaille comme dans le nettoyage aussi. Hein. Chez Citroën, là-bas, j'ai fait le nettoyage aussi. J'ai bossé à la gare, la restauration de train. J'ai fait tout, hein, j'ai fait tout. Ah bon, c'est vrai que je cherche toujours dans mes métiers et tout. Et toucher plus. Maintenant, si je trouve à 8 euros, je bosse. Là, maintenant, on va chercher l'argent. Hein. Il faut chercher l'argent, il y a l'argent. Maintenant qu'on est dans le besoin, on travaille tout ce qu'il y a. C'est le système qui est comme ça. Voilà. Comme ça, les gens, ils craquent. Il n'y aura plus de choix de travail. Il n'y a pas.
Combien sont-ils à parler comme ça et à vivre comme ça? En France, régulièrement, on donne les chiffres du chômage, les fameux chiffres du chômage. C'est pas forcément le nombre de chômeurs, les chiffres du chômage. Mais il s'agit, on le sait, au fond, on le sait peut-être insuffisamment, de chiffres tronqués, pour ne pas dire truqués. Et on sait qu'il y a 3 sortes de mensonges. Les petits mensonges, les sacrés mensonges et les statistiques. On sait que lorsqu'on évoque le chiffre du chômage, on évoque la première catégorie, c'est-à-dire la catégorie A, qui est celle des demandeurs d'emploi inscrits au Pôle emploi, tenus de faire des actes positifs de recherche d'emploi sans emploi, catégorie B, catégorie C, catégorie D, etc. Si bien que il y a plus de 4 300 000 inscrits à Pôle emploi, ce qui suppose évidemment une gestion d'autant plus difficile que on a un afflux récent dû à cette fameuse crise, mais évidemment qui est la Libye et l'aubaine probablement aussi. Mais en réalité, combien de Français ont affaire au chômage chaque année. Combien sont concernés par le chômage, par ce choc, évidemment, qui est de se retrouver au chômage, choc psychologique, perte de confiance en soi, enfin, etc. Toutes choses que, ou bien nous connaissons, ou bien que nous redoutons de connaître un jour ou l'autre. Rencontre avec Noëlle Burgy, qui est chercheuse au CNRS et spécialiste du travail.
Vous avez chaque année plus de 6 millions de personnes qui s'inscrivent à l'ANPE. Vous savez que vous avez 6 millions de personnes en France qui font l'expérience du chômage. Pour un total d'inscrits, selon les chiffres, qui varient entre 3,8 millions qui sont inscrits en catégorie ABC, 2,6 millions qui sont inscrits sur la liste de la catégorie A, là, qui n'ont pas du tout travaillé.
Dans le mois.
Voilà, dans le mois. Donc, vous voyez, c'est pour ça que ces chiffres-là sont des chiffres qui ne sont pas perçus toujours comme étant des chiffres valables, en tout cas, qui renvoient à la réalité du chômage en France. Je dirais que les 6 millions de personnes qui s'inscrivent tous les ans vous donnent une réalité un petit peu plus précise de ce qu'est l'état du marché du travail aujourd'hui. 6 millions, parce que vous savez, vous pouvez dire que sur ces 6 millions, il y en a peut-être la moitié qui vont retrouver un emploi, peut-être un emploi précaire, etc. Mais lorsque vous vous retrouvez à perdre votre emploi dans la conjoncture d'aujourd'hui, c'est une épreuve qui est terrifiante pour tout le monde. Et pas seulement pour les gens qui sont les plus vulnérables, pour tout le monde. La fusion de la CEDIC et de l'ANPE, elle a été décidée pendant la campagne de Nicolas Sarkozy en 2007. Enfin, elle a été annoncée au moins à ce moment-là. Et il semble que déjà à ce moment-là, les agents de l'ex-ANPE et de la CEDIC aient ressenti en interne une transformation, une évolution dans le mode de gestion de ce qu'on appelle les ressources humaines, c'est-à-dire dans le mode d'organisation du travail, avec une intensification de la logique de la gestion par objectif. C'est-à-dire qu'en fait, la gestion par objectif qui a été introduite depuis un certain temps, déjà depuis très longtemps à l'ANPE, est une gestion qui demande à l'agent de respecter un certain nombre d'objectifs, par exemple un taux de sortie. Le taux de sortie, c'est la sortie de la liste des demandeurs d'emploi. Il s'agit de se plier aux objectifs publics, de la puissance publique. Et les objectifs de la puissance publique sont des objectifs qui ne sont pas des objectifs humains, ce sont des objectifs gestionnaires. Ça n'a rien à voir. Et donc, le facteur humain là-dedans, il disparaît complètement. D'ailleurs, un agent Pôle emploi qui voudrait véritablement s'occuper de l'orientation professionnelle d'un demandeur d'emploi qu'il est en face de lui, ne pourrait pas le faire. Ça prend trop de temps. La finalité du travail change. C'est ça ce qu'il faut réussir à comprendre. C'est qu'ils servent des objectifs et ils ne peuvent plus servir le demandeur d'emploi.
Les plans sociaux continuent. Et la courbe du chômage reprend sa triste course en avant.
France 3, 24 février 2010.
En janvier, la France compte 2 664 600 demandeurs d'emploi, avec 19 500 chômeurs de plus que le mois précédent. Cependant, si l'on inclut tous ceux qui ont une activité réduite, il y a alors 4 100 000 demandeurs d'emploi. La seule bonne surprise de ces chiffres concerne les jeunes. Le nombre d'inscrits diminue légèrement. En revanche, les seniors et les chômeurs de longue durée sont toujours plus nombreux à Pôle emploi. La crise n'en finit pas de produire ses effets. Depuis plus d'un an, le nombre d'inscrits a ainsi dépassé 1 300 000 personnes, soit près d'un tiers des demandeurs d'emploi. Certains des chômeurs de longue durée risquent d'arriver bientôt en fin de droit, c'est-à-dire sans allocation chômage.
Ça va faire 28 ans maintenant que je travaille pour Pôle emploi, anciennement ex-ANPE. Je pense que le nombre de radiations, son accroissement, il est lié aux objectifs qui nous sont fixés, puisque dans les objectifs nationaux, et puis ensuite on les décline au niveau de la région et du département, on a un certain nombre d'objectifs à tenir, et les radiations en font partie. Le taux annoncé, c'était 500 000 radiations à l'année. Ça a été annoncé par Christian Charpie, qui est directeur général du Pôle emploi. 500 000 radiations, c'est énorme. C'est 500 000
personne, être humain derrière.
Alors voilà, ça, on va l'appeler Delphine, c'est pas son vrai nom. Elle est, vous avez compris, elle travaille au pôle appui, et très précisément. Elle a une longue expérience de l'intérieur de la NPE, puis maintenant de Pôle emploi. Je voudrais revenir sur ce qui a été dit auparavant, sur la gestion, sur le côté absolument gestionnaire. Il y a un petit livre qui vient de sortir qui s'appelle « Confession d'une taupe à Pôle emploi » et qui est un témoignage de, d'un agent qui lui aussi a pas mal d'expérience et qui travaille à Pôle emploi et qui rappelle comment lors de la création de Pôle emploi, on a fait appel à des cabinets tels McKinsey, autres Accenture, pour gérer les choses d'une façon tout à fait une direction marketing. Quant à Christian Charpie, auquel il vient de faire allusion, il est depuis avril 2005 le directeur général de l'Agence nationale pour l'emploi, maintenant devenu donc Pôle emploi, et il devrait percevoir pour l'année 2009, d'après les prévisions, 275 000 euros bruts, soit 45 000 euros de plus qu'en 2008, c'est-à-dire qu'il a un salaire qui est au même niveau que celui du Premier ministre François Fillon. Ce qui lui avait valu des remontrances un petit peu sévères de la part de Benoît Hamon, qui l'avait traité de canaille, carrément. Alors, nous voilà maintenant à la question des radiations. Et dans ce petit livre, l'auteur, qui reste anonyme, dit que voilà, Pôle emploi, c'est une machine à radier. C'est la machine à radier, et voilà pourquoi les salariés de cette, les agents, entre eux, s'appellent des radiateurs. Témoignage de Delphine.
Ce n'est pas vraiment caché, même si les textes, on les a pas forcément. On a quand même quelques inspirations dans ce qu'on appelle aujourd'hui le dialogue de performance, où sont répertoriées les priorités à mettre en œuvre pour l'année en cours.
Et alors, par exemple, si moi j'ai un dialogue de performance, donc il est sous mes yeux. Effectivement, c'est un document de travail où il y a la petite croix où il y a écrit « ne pas diffuser », c'est ça ?
C'est tout à fait ça. Donc, il y a une déclinaison nationale du dialogue de performance. Donc, le directeur régional de chaque région doit mettre en place son propre dialogue de performance adapté à la situation de sa région.
Si on prend les premières pages, il y a beaucoup de tableaux avec des chiffres. Alors, on a dans le tableau les indicateurs stratégiques de 2009, le bilan du Pôle emploi pour une région donnée. Hein.
Alors, les indicateurs stratégiques, ils sont aussi bien sur le délai de traitement d'un dossier, le délai de convocation au premier entretien pour réaliser l'inscription. Donc, c'est ce qu'on a là, délai IDE-PPAE à zéro jour. Sur l'indicateur suivant, on a un taux de sortie à 6 mois. Donc, dans ce taux de sortie, si on prend le terme comme ça, pour quelqu'un qui n'est pas de l'établissement, ce n'est pas parlant. Pour quelqu'un qui travaille à Pôle emploi, ça veut dire le taux de sortie, ça veut dire les cessations d'inscription et les radiations. Et donc, on a un taux de sortie à atteindre.
Ça veut dire à 6 mois, c'est
6 mois d'inscription.
C'est-à-dire au bout de 6 mois d'inscription, la personne doit sortir du...
Voilà, on a un taux d'objectif à réaliser, de sortie des fichiers des demandeurs d'emploi pour ceux qui atteignent 6 mois d'inscription.
On décide sur aucune base. Radier quelqu'un, en l'occurrence là, un taux de radiation qui se base sur aucune autre base que celle de faire du chiffre, c'est ça ?
Enfin... Oui, c'est tout à fait ça. C'est qu'il faut trouver les moyens de réduire le nombre des demandeurs d'emploi qui sont inscrits parce qu'on a un taux de chômage inégalé depuis des années, qui va s'accroître encore. On a des directives pour faire baisser le chiffre du chômage. Alors, il est monté des opérations comme on en a connu dans l'ex-ANPE, qui était par exemple l'opération chômeur longue durée. On avait l'obligation de convoquer tous les chômeurs de longue durée. Et si les demandeurs d'emploi ne se présentaient pas à la convocation, par exemple, eh ben, il y avait la procédure de radiation qui s'entamait derrière. Donc, quand on est chômeur de longue durée depuis au moins 12 mois, et ça, c'était le minimum, parce qu'il y a les chômeurs de longue durée, puis de très longue durée, où on a plus de 24 mois, voire 36 mois d'inscription et plus. Quand on voit que de toute façon, des solutions, il n'y en a pas, que le conseiller qui va nous recevoir n'aura pas grand-chose à nous proposer, parce que des offres, il n'y en a pas, surtout dans la situation actuelle, eh ben,
On se dit que c'est pas la peine de venir. De toute façon, ça rime à rien. On va rien m'apporter. Donc, il y a des demandeurs d'emploi qui ne viennent pas. Il y a des demandeurs d'emploi pour cette raison-là. Il y a des convocations qui n'arriveront jamais. Et tout ça va générer un certain nombre de radiations ou de cessations d'inscription à l'issue qui va permettre de faire baisser les chiffres.
Vous, c'est ce que vous avez fait, donc?
C'est ce que j'ai fait il y a quelques années. Ça s'est répété, donc c'est l'opération jeune, c'est l'opération chômeur longue durée, maintenant ça va être l'opération senior, etc. Donc sous couvert de s'occuper vraiment des demandeurs d'emploi, de faire un point sur leur situation et de trouver des solutions adaptées, derrière, on va arriver à atteindre un certain nombre de demandeurs d'emploi qui ne seront plus inscrits sur les listes.
Et l'économie ce matin, c'est bien sûr le chômage qui repart à la hausse.
France Info.
Et ce constat, Emmanuel, vient contredire clairement la promesse du chef de l'État le mois dernier.
25 février 2010.
Oui, parce que Nicolas Sarkozy, face au panel de Français réunis par TF1 le mois dernier, était formel.
Je sais que dans les semaines et les mois qui viennent, vous verrez reculer le chômage dans notre pays.
Voilà, eh bien, le chef de l'État s'est littéralement emballé. Il avait en tête une éclaircie en toute fin d'année qui allait être annoncée quelques heures plus tard. Non seulement elle ne se confirme pas en janvier, mais qui plus est, les chiffres ont été corrigés.
Les chiffres de décembre.
Absolument, le chômage n'a même pas baissé en décembre, il a au mieux stagné.
C'est à la main du directeur d'agence de prendre la décision ou pas de radier quelqu'un. Ce n'est pas un conseiller ou un agent administratif du pôle appui qui va pouvoir prendre cette décision. Et c'est nous qui appliquons, qui faisons les actes professionnels qui vont générer la radiation et la suppression des allocations. Une radiation vous empêche de vous réinscrire pendant le temps donné, hein, ça peut être 2 mois, ça peut être 15 jours, et ça vous supprime les allocations pendant la même durée. Ça vous supprime, mais vous les retrouvez pas. Et très très souvent, et malheureusement au jour d'aujourd'hui, on leur parle beaucoup de leurs obligations et pas assez de leurs droits. Ce que j'entends sur les chômeurs, des discours du style « c'est pas possible qu'il ait pas reçu de convocation », ils trouvent toujours des raisons pour refuser. J'ai vraiment le sentiment que les agents de Pôle emploi en arrivent à stigmatiser le demandeur d'emploi parce que ils ont une telle pression de la part de leur hiérarchie, de la part de l'établissement, que il faut trouver un exutoire et parfois l'exutoire c'est celui-là quoi. Malheureusement c'est celui-là, de par la pression que l'on a sur nos épaules au quotidien.
Comment elle se traduit la pression au quotidien sur vous? Par exemple.
Alors la pression, le quotidien, elle va se traduire par, de toute façon, il y a un contrôle de ce que l'on fait, hein, qui est mis en place en interne. Donc même les actes professionnels que je fais en désobéissance, c'est-à-dire d'annuler un avertissement avant radiation, etc., ou une sanction, elles sont tracées dans le dossier du demandeur, avec mon numéro de matricule, et on peut me retrouver à tout instant.
Vous avez un numéro de matricule?
Oui, chaque agent du service public a un numéro matricule, et tout ces actes professionnels sont tracés, on peut trouver qui a fait quoi, bien sûr. Donc là, j'ai ce risque de sanction sur les épaules au quotidien. Ça peut aller au licenciement pour faute professionnelle. Hein. C'est la pression du public, mais pas physique, mais du public par rapport au nombre de dossiers qu'on a à traiter dans la journée, par rapport aux cas de plus en plus dramatiques. Moi, ça me met une pression supplémentaire parce que au fil des années, les situations sont de plus en plus catastrophiques pour eux et j'ai pas de moyens, quoi. Je me sens totalement impuissante face à cette situation critique et face à cette batterie de sanctions administratives qu'on met derrière pour pénaliser le demandeur d'emploi, pour le stigmatiser, alors qu'il n'est pas responsable de sa situation. Il y a déjà eu des jours où en me regardant dans la glace, et ben j'ai dit « je ne peux pas y aller, quoi. Je ne peux pas y aller aujourd'hui, je n'y vais pas, je ne peux pas, je craque. Oui, et j'ai peur que ça m'arrive encore demain. » Parce que la situation ne s'arrange pas et que ce soit en interne ou en externe, hein, la situation des chômeurs ou la situation en interne et les directives internes font que y a des matins je peux plus, quoi. Plus ça va aller et je risque de moins en moins pouvoir venir et être tout le temps en contradiction ou écartelé au quotidien dans ma manière de travailler. C'est de faire un sale boulot et de pas rendre un service pour lequel je suis rentrée à l'ex-ANPE à l'époque. C'est que l'organisation m'impose de ne plus avoir de conscience professionnelle.
Comment vous acceptez tous les jours de ça alors?
Ben, c'est pas facile tous les jours. Hein. Dans mon travail, j'ai déjà craqué et fait une dépression. J'ai fait une dépression parce que je ne supportais plus la manière dont on voulait me faire travailler.
Ça me rend malade au travail d'avoir à faire des actes professionnels pareils.
Et est-ce que vous avez l'impression qu'ils sont de moins en moins justifiés ?
Oui. Et pourtant, je trouvais la décision totalement injuste. Mais j'ai été obligée de la prendre.
Comment vous faites pour accepter d'obéir à cet ordre-là, quoi ?
Comment je fais ? C'est que c'est mon boulot, c'est mon gagne-pain. J'arrive à faire des actes de résistance pour éviter justement la radiation du demandeur d'emploi, en outrepassant certainement et même sûrement mes fonctions. Mais c'est ce qui me permet de tenir aujourd'hui. Même ne serait-ce que le fait d'évoquer des cas de radiation abusive ou injustifiée ou dégueulasse, ça me fait quelque chose et ça me met très mal à l'aise. Mais j'ai malheureusement une direction au-dessus de moi qui a toute autorité sur moi et que si elle m'impose de faire la radiation, je suis obligée de la faire.
Peut-être qu'un jour, il y aura quelque chose que vous n'arriverez pas à appliquer ou pas ?
Oui, et ça m'est déjà arrivé de refuser d'appliquer une décision, tout à fait. Alors, il y a eu plusieurs cas. Il y a eu cette personne était à mobilité réduite, donc avait des problèmes de station debout pénibles et qu'on radiait pour refus d'emploi parce qu'elle avait refusé la cueillette des fruits en saison. Médicalement, elle ne pouvait pas lui proposer ce type d'offre d'emploi et encore moins la radier pour avoir refusé cette offre-là, alors que physiquement, elle ne peut pas le faire. Là, j'ai refusé de faire la radiation. Oui.
Qu'est-ce qui vous est arrivé ?
Rien. Rien, c'est mon directeur qui l'a faite à ma place.
Il fonçait, dans le boulot il se défonçait. L'heure de bureau à peine commencée, il dépassait l'énoncé. Le pauvre mec, les cernes creusaient les pommettes. Il se soumettait hiver ou été, les heures sup creusaient la moquette. En l'occurrence, il en faisait de trop. Ordonner les choses sous les gouttes chaudes que la sueur dépose. Pardi, le patron ravi n'allait pas s'en plaindre. Avoir un employé hardi qui peut dépeindre l'ambition à atteindre. Ce qui est bien avec la concurrence, c'est qu'on se tire dans les jambes pour des miettes que le patron n'osait même pas nous vendre. Notre homme braillait. Coûte que coûte, les moult ordres avec des mots que le patron lui-même n'osait employer. Les employés sous le stress le voyaient lentement s'enrayer dans la folie dans laquelle il s'est lui-même envoyé. Et quand il s'est évanoui, le boss n'a rien éprouvé, a juste pris l'après-midi pour nouveau bras droit trouver. Pris dans l'engrenage concurrentiel, les petits employés pleins d'étincelles sont souvent plus démentiels que les règles elles-mêmes. Alors si la concurrence ne cesse de vous tendre, allons, gardons d'humain le peu que l'on pourra défendre.
Quand la concurrence ne cesse,
Canal Plus.
La fusion est en cours. Tout doit être terminé en septembre. C'est forcément une période compliquée. S'il reconnaît quelques ratés, le directeur de Pôle emploi s'en tient aux chiffres officiels.
3 mai 2009.
Aujourd'hui, les dossiers en attente d'annulation équivalent en gros à moins de 2 jours de traitement, ce qui est tout à fait gérable, ce qui est conforme à ce qui s'est fait dans les années précédentes. Et les plateformes téléphoniques, même si elles doivent encore s'améliorer, sont aujourd'hui plus efficaces qu'elles étaient il y a quelques semaines.
Mais ça marche.
Mais un chômeur excédé vient l'interrompre.
S'il te plaît. Allez, on est tous là. D'accord. Je vous entends discuter. Moi, je suis juste venu pour une connerie. D'accord. Ça fait juste 2 mois. J'attends d'être payé, tu vois, parce que j'étais chômeur en février. La dame qui est là, bon, elle fait son boulot, la pauvre. C'est une totale désorganisation. Dites la vérité. Dites qu'aujourd'hui, il y a des vrais dysfonctionnements au niveau des assédiques, que les gens, des fois, ils sont pas payés depuis 3 mois. Là, attendez, si vous discutez juste, j'entends discuter le gars devant moi. Le gars là, tu vois, il est en train de voir, il a des problèmes de paiement aussi.
Moi, je l'ai fait parce que ça m'arrivait pareil comme toi.
Hein. Mohamed, c'est vous qui faites ça. Le conseiller à une peu. Parce qu'il est parti, le conseiller. Ouais. Vous, ça fait combien de temps que vous cherchez ?
Ça fait 3 ans.
3 ans ? Et le conseiller à Orient.
Mais on va remettre les choses dans ce contexte. Nous, on a besoin de ce papier-là. Maintenant, pourquoi vous n'avez pas ce papier-là ?
Ils m'ont donné déjà...
Non. Pourquoi vous n'avez pas votre déclaration d'impôt ? Moi, je fais mon travail, je vous dis que ça, c'est pas bon.
Mais pourquoi votre collègue a pris le papier la dernière fois ? Il m'a dit, c'est grave. Vous étiez là ?
Vous étiez juste
non,
à côté.
Non, pas là, non, je pense pas.
Si, si, vous étiez là, j'ai dit pas que vous étiez là.
Ah, écoutez, si vous voulez, moi je me souviens pas de vous d'une, et puis c'est vraiment, je me rappelle pas, je vois des tonnes de personnes tous les ans, c'est compliqué de se rappeler.
Vous avez dit ça comme ça parce que.
Moi je suis conseiller, je vous explique, je suis pas là pour faire le ménage.
Voilà, il a fermé la porte, vous l'a monté.
Ah oui, il est parti un peu énervé.
Il nous aime pas qu'on défend. Il a claqué la porte, t'as vu ça?
Ouais, ça devient un peu bordélique.
Je bouge pas d'ici.
Ok. Mohamed, il est en train de suivre le conseiller à l'extérieur.
Vous comprenez bien ce que je dis?
Bah vous, vous ne comprenez pas quand je vous demande un papier en tout cas.
Bah le papier que j'ai déposé, je vais récupérer mon papier pour aller aux infos, comme ça ils vont me remettre ce que vous demandez.
En fait, tout est fait pour que tout le monde se dispute hein, maintenant dans les agences Pôle emploi.
Non, c'est grave.
Mais quand il y a des cons devant, c'est tout comme ça.
Mais je vous comprends que vous êtes bloqué entre les impôts et nous, je vous comprends. Non, mais malheureusement, on n'y est pour rien.
Non, mais c'est pas ça le problème.
Ça, là, vous l'avez déposé?
Je l'ai déposé.
Quand?
Le jeudi dernier.
Bah vous attendez alors.
Moi, ils m'ont bloqué aussi. Comme ça, ils m'ont bloqué moi l'année dernière. Ah oui, je me rappelle de ça.
Alors maintenant, on est sur le trottoir et il y a un autre demandeur de toi qui vient. Et les conseils se font sur le trottoir.
Vous auriez pris une clope?
Bonjour, Pôle emploi à votre service. Le 3949 est le numéro unique des demandeurs d'emploi et des actifs. Pour accéder directement à nos services, tapez étoile.
Oui, c'est pour éviter ces affrontements parfois peu caressants entre les conseillers de Pôle emploi et les chômeurs, les inscrits, qu'il a fallu mettre ce téléphone 39-49, ça met un peu de distance. N'empêche que de chaque côté du guichet, c'est quand même très très dur dans cette machine à radier. Et parce que, bien sûr, on ne dit pas il faut les radier, mais il y a des tas de techniques qui sont longuement décrites dans ce bouquin « Confession d'une taupe à Pôle emploi » pour radier. Ça revient à ça, mais ça ne se dit pas comme ça. Ça revient à ça, c'est ce que nous disait Delphine à l'instant. Et si jamais le conseiller a des états d'âme, ne fait pas tout à fait ce qu'il faut, ben, il est quand même déconsidéré par évidemment son chef et déconsidéré aussi par les collègues parce qu'il y a une prime collective quand les résultats sont bons. Voilà, c'est une machine véritablement à éliminer les chômeurs, à faire disparaître les chômeurs qui s'appelle Pôle emploi. Témoignage de Lucien, 47 ans.
Donc ce que je fais, alors actuellement depuis le mois de décembre je suis en contrat aidé, contrat avenir, donc à Pôle emploi, qui sort un petit peu du cadre de ce que j'avais l'habitude de faire jusqu'à là.
Est-ce que vous aviez l'habitude de faire quoi?
Ah bah j'ai travaillé plus de 20 ans, j'étais commercial, j'ai élevé deux enfants, un petit garçon et une petite fille, ils sont grands maintenant. Et un jour, j'ai été licencié. Après ça, c'est vrai qu'on prend déjà une bonne claque, quoi. Après une vingtaine d'années, c'est de commercial, fichier client, etc. Et vous les revoyez plus, c'est terminé, c'est fini. C'est compliqué à digérer, quoi. Alors, bah, j'ai un petit peu plus de 45 ans. Donc, ce qui situe quand même l'âge en reflet, donc, avec les contrats aidés, puisque contrat aidé, contrat avenir. Bah en fait, c'est un CDD qui est valable 2 ans, voire avec 1 an renouvelable, si tout se passe bien, et le contrat ensuite est fini, quoi. Donc ça veut dire, c'est fini, et bel et bien fini, quoi. Contrat à venir, c'est un contrat de 26 heures, donc ça frise, quoi, tout à peine 900 euros, quoi. Ouais, qu'il n'y a pas de quoi à se relever la nuit, à bosser dans le cadre d'un contrat à venir et de 26 heures. Bon, alors c'est vrai que c'est toujours ça, comme on dit, on prend aussi ce qui peut passer, c'est pas super. Bon, alors après chacun fait en fonction de sa situation. J'ai passé 3 ans en tant que demandeur d'emploi, donc j'ai fini par arriver en fin de droit, donc vous percevez la SS. La SS c'est 450 euros, donc c'est pire encore, là à ce moment-là on se dit... Mais voilà, qu'est-ce qu'on va faire? Qu'est-ce que je fais, quoi? Pour ma part, j'ai travaillé officieusement. Enfin, je vois pas beaucoup d'autres solutions pour faire en sorte de pouvoir prétendre un salaire meilleur, quoi. Ou alors, je sais pas, on fait dealer ou Et bon, c'est plus la même image. Alors en fait, j'ai rénové beaucoup d'appartements, quoi. Donc c'est un créneau où en fait il y a pas mal de gens, il y a pas mal de monde, mais il y a beaucoup de demandes. Donc j'ai fait beaucoup d'appartements en rénovation.
Vous touchez à peu près combien de la SS et des petits boulots à côté?
Alors la petite fourchette, on peut dire que ça voisinait 2 000 euros, quoi, 2 000 euros par mois, quoi. Bon, c'était pour moi, c'était pas quelque chose de stable. Enfin, je veux dire, à long terme, c'était pas viable à long terme. Il fallait que j'arrive vraiment à cadrer ma situation. Voilà, on se dit, ouais, c'est vrai que, attention, ma retraite, comment ça va se passer, quoi. De là, j'ai pris contact de plus avec Pôle emploi, un conseiller. Aujourd'hui, voilà, je touche beaucoup moins d'argent. Et finalement, en travaillant, quoi, c'est ce qui est assez terrible.
Et justement, et vous, votre compagne travaille, enfin...
Non, alors moi, je suis séparé. J'ai par contre, j'ai ma fille à charge qui est à la maison, avec sa petite fille aussi. Mais bon, voilà, c'est important quand même d'avoir un emploi stable, ferme, et un salaire. C'est pas le cas de vraiment tout le monde, quoi. Je suis à Pôle emploi, je fais l'accueil le matin et vraiment je vois vraiment la misère, quoi. Je vois vraiment la misère tous les matins, quoi. Donc voilà, on peut se dire aussi qu'il y a toujours pire. Et il y a toujours plus malheureux que soi. Enfin, je sais pas si c'est vraiment une façon de se consoler. Mais enfin bon, c'est ce qu'on peut se dire aussi, quoi. Enfin, je rentre moi le matin et franchement, mais j'ai vraiment pas le temps de penser à autre chose, quoi. Et la relation curieuse, c'est que j'ai fait pendant très longtemps des chantiers, à me lever super tôt le matin, à rentrer super tard. Et je me trouve à être plus fatigué là chez Pôle emploi que de faire des chantiers, quoi. Mais quand je rentre, je suis mort, quoi. Parce que la misère les matins à l'accueil, tous ces gens qui ont à moitié plus de revenus ou qui ont bientôt, plus d'allocations, arrivant en fin de droit, et je pense que là, c'est un peu le haro qu'on entend ici et là. Il y en a vraiment beaucoup, beaucoup. Et alors là, il n'y a plus de rentrée d'argent du tout, quoi. On se demande comment ça se passe, quoi. Enfin, c'est vrai que j'ai forcément une petite pensée pour tous ces gens. Alors que finalement, je suis pas mieux... Ouais, si, peut-être un petit peu mieux loti qu'eux, façon de parler. Alors je sais pas, c'est peut-être pas une bonne comparaison. Mon petit revenu de 800 euros, encore une fois, il n'y a pas de quoi pavoiser, quoi. Et putain, c'est pas... Mais bon, c'est comme ça.
Mais est-ce que justement, là, vous avez la possibilité de faire en sorte que la personne soit paradisée ou pas, enfin...
Mais moi, c'est pas ce qu'on m'a demandé.
Non, vous avez demandé de faire quoi, ouais. Alors, par rapport à...
Ah ben moi, on m'a demandé de démarrer une procédure, quand il y a lieu de le faire. Donc j'ai forcément des directives, j'ai des consignes. Je vais pas dire de ne rien laisser passer, mais chaque courrier est vraiment épluché, quoi. Chaque courrier est épluché, quoi. Je vais déclencher une cessation d'inscription... Et bon voilà, avec tout ce que ça engendre derrière, quoi, et de se dire, bah tiens, ce gars-là, là, forcément, je vais le coincer, quoi. Enfin, c'est pas moi. Enfin, si, on se sent un peu, on culpabilise un petit peu quelque part, quoi, de se dire, forcément, je vais faire la cessation d'inscription, c'est pas ma directrice, à mon avis, qui va me dire non. Là, elle va signer, le truc, il va partir, et bon voilà, c'est un demandeur d'emploi aussi qui sera radié, forcément, qui finira par être radié. Mais bon, ouais, c'est vraiment, c'est un peu, ouais, une chaîne, et travail d'équipe. Bah, on se sent un peu, je vais pas dire coupable, d'avoir mis cet individu éventuellement dans le déclin. Mais bon, en fait, quelque part, on vous laisse pas le choix, quoi. C'est comme ça, et c'est comme ça, quoi. Si, voilà, tu le fais pas, bah, tu pas faire un boulot ailleurs, faire autre chose, quoi. Mon parcours, il est tout récent, tout frais, chez Pôle emploi. Alors peut-être qu'effectivement, mars, avril, mai, je sais pas, je serai peut-être plus chez Pôle emploi.
Pourquoi vous y serez plus?
Finalement, je pense que je craquerai. Donc voilà, j'avoue, je sais pas bien où je vais. Bon, ce qui me faisait plaisir, c'était Pôle emploi, c'était une grosse enseigne, une grosse société. Mais enfin, j'ai vraiment l'impression que c'est pas joué, quoi. J'ai vraiment l'impression que c'est pas joué.
Aujourd'hui, les marchés se sont plutôt bien comportés. Indice qui somme nous moins 0,01%.
1,05 indice où allons-nous, 1,5 indice d'où venons-nous, 4,0 indice mystère et trou noir, moins 0,9 indice individuel, 29,0 sens de la vie, 4,8 confiance en soi, 0,6 température du corps, 37,25 température extérieure, 21 degrés. Jouissance des biens matériels, 0,8. Fréquentation des toilettes, 3,0. Nombre de mots employés, 182. Poésie effective réelle, 11,1. Taux de culpabilité, moins 14,3. État du réel, 3,1. Sensation du temps qui passe, 4,8. Déchiffrement du réel, 2,7. État du possible, 0,1. Demande affective effective 1,5, offre affective effective 1,3, difficulté surmontée 1,7, degré de partage 0,2, indice amour 2,0, abstraction 0,02, enthousiasme 0,8, taux de culpabilité 1,0, sécurité 0,81, absence.
Pour actualiser votre situation mensuelle, dites « actualiser ». Pour les offres d'emploi, les formations...
C'était un reportage de Pascal Pascariello, première diffusion le 22 mars 2010, à lire « Confession d'une taupe à Pôle emploi » d'Aude Rossigneux et Gaël Guiselin, publié par Calman Lévy en mars 2010, à lire également « La machine à exclure les faux-semblants du retour à l'emploi » de Noël Burgi, paru aux éditions La Découverte en 2006. Vous retrouverez bien sûr toutes les informations sur le site de France Inter à la rubrique émission « Là-bas si j'y suis ». À la technique aujourd'hui, Rémi Quincé et Pierrick Monsigny, à la réalisation Coy Nguyen et Franck Adhérer, assistante Agnès Lebot, chef du répondeur Marina Touillez. Le numéro du répondeur de Là-bas si j'y suis est le 01 56 40 37 37. Bon après-midi sur France Inter, il est 16h. Les informations avec Corinne Audouin.
C'est la foule des grands jours à Pointe-à-Pitre en Guadeloupe pour accueillir le vainqueur de la route du Rhum, Franck Camas et son maxi trimaran Groupama 3. Et nous tentons de rejoindre tout de suite sur place Pierre-Louis Castelli.
Ah, c'est la foule, vous l'avez dit, des grands jours et Franck Camas sur son trimaran Groupama n'est plus qu'à quelques centaines de mètres de la ligne d'arrivée située à côté de Gosier à 5-6 km de Pointe-à-Pitre. Il a sauté sur le trampoline de son bateau avec son short noir et son t-shirt blanc. Et plusieurs fois, il a levé le bras au ciel avec le fait de la victoire et les pouces en l'air. Il nous salue là, à l'instant même, Franck Camas. Il en aura fini sur son immense trimaran de 31 mètres. Trimaran qui avait parcouru le tour du monde en 48 jours. Lui, tout seul, il a réussi pour la quatrième fois, la quatrième reprise à s'imposer dans la route du Rhum. Et il nous salue parce qu'il a vu qu'il y avait des radios là qui faisaient du direct sur le bateau France Inter. Franck Camas s'est livré bientôt dans une poignée de minutes au large de Pointe-à-Pitre. Jean-Louis Castelli, Franck Inter.
Et saluez-le pour nous en retour. Et Francis Joyon sur IDEC et Thomas Coville sur Sodebo devraient prendre les deuxième et troisième places de cette neuvième édition de la course en solitaire partie il y a 9 jours de Saint-Malo. Le trafic des TGV Nord, des Eurostars et des Thalys s'est perturbé cet après-midi. À 13h20, un train a percuté une armoire déposée sur la voie à Moussy dans le Val d'Oise. La SNCF évoque un acte de malveillance. Le trafic est complètement interrompu dans le sens Provence-Paris sur les lignes à grande vitesse. Les trains empruntent la voie classique, ce qui entraîne des retards d'une heure. Dans ce qu'on appelle l'affaire des biens mal acquis, la Cour de cassation autorise la reprise des poursuites judiciaires. Il s'agit de logements de luxe et d'avoirs bancaires détenus en France par 3 présidents africains. La plus haute juridiction française a annulé un arrêt de la Cour d'appel de Paris qui déclarait irrecevable la plainte de l'organisation Transparency International. Selon l'ONG, les biens en question ont été forcément acquis avec de l'argent public détourné. C'était le dernier obstacle avant la promulgation de la loi. Le Conseil constitutionnel a validé le texte sur la réforme des retraites. Les sages ont rejeté les recours déposés par les socialistes et la loi sera promulguée d'ici 15 jours au maximum. Pour sortir la filière viande de la crise, le ministre de l'Agriculture vient de nommer un médiateur, Loïc Gouello, inspecteur général au ministère. 9 abattoirs du groupe Bigard, le numéro 1 du secteur, sont bloqués depuis dimanche soir par les producteurs en colère. Ils demandent une revalorisation des prix. Le bilan des violents affrontements hier à Laayoune, au Sahara occidental, s'alourdit. Selon le Front Polisario qui milite pour l'indépendance de ce territoire annexé par le Maroc il y a 35 ans, 11 personnes ont été tuées et plus de 700 blessées après l'évacuation par les forces marocaines d'un campement d'habitants qui protestaient contre les conditions de vie. Contre leurs conditions de vie, les autorités, elles, parlent de 6 morts, essentiellement dans les rangs des forces de l'ordre marocaines. Une étude de chercheurs danois et français pointe les risques de la prise d'antalgique pendant la grossesse. Les recherches montrent une corrélation entre une prise importante de paracétamol, d'aspirine ou d'ibuprofène et des troubles de la reproduction chez l'enfant de sexe masculin. Le risque est ainsi doublé pour des femmes ayant pris des antalgiques en continu pendant 2 semaines pendant leur grossesse.
Ce soir, à 21h, France Inter vous invite à partir avec Marie-Pierre Planchon.
Je vous propose de rencontrer ce soir Lydia Morandi, une jeune DRH qui a décidé de faire de sa vie une aventure en réalisant son rêve, faire connaître les saveurs de la cuisine sénégalaise. À ce soir,
à 21h,
pour le voyage au Pays des Lions. France Inter. France Inter.
La différence.
Et à 16h04, on met les voiles sur le carrefour de l'Odéon avec Frédéric L'Odéon. Bonjour.
Bonjour Corinne. Carrefour de l'Odéon. Bonjour à tous. On commémore aujourd'hui le décès du général de Gaulle et ça m'amène, pour honorer la mémoire de ce citoyen passionné par l'histoire de notre pays, à vous proposer une émission consacrée à la musique française. Alors évidemment, pas toute la musique française, il faudrait, je ne sais pas, des années et des années, et encore, on n'est pas sûr de tout pouvoir proposer et passer. Non, non, on peut citer, non pas, les débuts de la polyphonie au XIIe siècle, arrivé déjà au XIIIe, avec le fameux manuscrit de Montpellier, où la musique s'organise assez nettement. On voit cette naissance et ce développement de la polyphonie très nettement se manifester. On va entendre soit des chansons, soit de la musique religieuse petit à petit. On va trouver une messe mariale, on va trouver un graduel d'Aliénor de Bretagne. Et puis, toute cette musique s'organise, commence à se manifester de manière technique. On commence à connaître les consonances, comment ça sonne le mieux. Il va y avoir petit à petit des traités, avant évidemment d'arriver à notre époque. Mais enfin là, c'est une très longue histoire, un très long cheminement. Voici donc du manuscrit de Montpellier, un fameux codex, comme on dit aussi chez les Américains ou les Anglais. Ne sais que je dis, je ne sais pas ce que je dis, ce qui peut arriver quand on est très amoureux ou quand on est un peu paniqué. En tout cas, dans ce vieux François, voici ces débuts de la naissance de notre musique. Ne sais que je dis, je ne sais ce que je dis, tiré du manuscrit de Montpellier du XIIIe siècle, interprété par l'ensemble Anonymous Four. Puis on va avancer un petit peu dans l'histoire. Bien sûr, on pourrait s'arrêter à chaque étage, à chaque étape, mais allons vers Jean-Baptiste Lully, bien longtemps après, en 1632, il a trouvé naissance. Il est parti d'Italie, de Florence, pour arriver en France. On l'a dit petit marmiton, on l'a dit serviteur enjoué, qui savait jouer du violon et danser, faire tous les tours pendables quelquefois, d'ailleurs. C'est pas un innocent, Lully, mais enfin, il s'est trouvé, c'est peut-être l'histoire de la France en général, que c'est cet Italien qui a vraiment marqué la musique française du temps de Louis XIV, et on connaît de lui, par exemple, le Bourgeois Gentilhomme, et particulièrement la marche pour la cérémonie turque. Je rappelle que cette marche pleine de grandeur était faite, en fait, était faite pour se moquer des ambassadeurs turcs qui visitaient le pays.